dans la rue le 29 novembre.
Quitte à trouver la police sur notre route et refuser de faire marche arrière.
Le mouvement de la jeunesse. Alors, à toutes les manifestations nazies, soyez là, soyez présents et empêchez-les. Car nous sommes noirs, nous sommes blancs, nous sommes jaunes et ensemble, nous sommes de la dynamite. 1, 2, 1, 2, 3, 4. La jeunesse en mer, le Front National. La jeunesse en mer, le Front National.
Rendez-vous le 29 novembre à 14h, place Jean Massé.
Un suivi en direct se fera sur Radio Canut 102.2 à partir de 13h et toute l'après-midi.
N'hésitez pas à nous appeler pour nous transmettre vos infos pendant la manif au 04 78 29 26 00.
04 78 29 26 00.
Jeunesse française, jeunesse immigrée, solidarité.
Radio Canut, 19h.
Sachez que ce journal est réalisé uniquement par des personnels non grévistes.
Qui inquiète beaucoup l'Élysée. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement? Plusieurs magasins, la violence est encore montée d'un cran aujourd'hui.
Suite au préjudice moral subi le dernier jour des soldes.
La police parle de 825 000 personnes dans la rue. Les syndicats évoquent 3 millions de manifestants.
Radio Canut, la plus rebelle des radios.
What you call is a diamond fella. All you little boys ever come in your parents. You bellow where your fellows get tamed like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. You, what are you gonna do? Little boys get tamed like the shoe. You're midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm Capulet, you're monarchy, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, couldn't sell your CD. As for me, all's well, that ends well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about tomorrow, I know who's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions.
Bonsoir.
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 Nous sommes le mercredi 26 novembre 2014. Il est 19h passé de 2 minutes et c'est l'heure du Canut Info.
Alors ce soir, on va donner des nouvelles de Ferguson.
Ça sera ensuite suivi d'une interview de Martin qui va nous parler des occupations d'écoles à Lyon.
Ensuite, on parlera des évacuations des manifestants à Hong Kong.
Ensuite, une brève titrée « On a la police qu'on mérite ».
Ensuite, Vaches et Taureaux se mobilisent contre les violences policières.
On fera un tour par téléphone avec un de nos collègues qui va nous parler du Burkina Faso.
Ensuite, on passera à la rubrique « Il faut que ça se sache ».
Suivi de l'agenda.
« Et comme nous allons commencer par les brèves, et la première, c'est que la grande chanteuse libanaise Sabaha s'est éteinte ce matin à Beyrouth à l'âge de 87 ans, et que ça a été énormément relayé par les médias puisqu'elle était très connue. Sinon, Total poursuivi pour corruption. La justice française a décidé de renvoyer Total en correctionnel dans l'enquête sur des contrats gaziers et pétroliers passés avec l'Iran dans les années 90 et 2000, une période qui intéresse aussi les procureurs américains qui prétendent que Total a soudoyé un responsable iranien pour obtenir de lucratives concessions de pétrole et de gaz en violation de la loi anticorruption de 1977 des États-Unis. Et qui interdit aux sociétés qui émettent des titres de payer des pots de vin à l'étranger. Et qui, à cette époque, était alors le directeur Moyen-Orient du groupe Total ?
Je te donne dans le mille.
Et oui, Christophe de Margerie, qui était à cette époque-là directeur Moyen-Orient et qui est devenu ensuite, comme tout le monde le sait, le PDG de la compagnie. Il avait été mis en examen pour corruption d'argent public étranger et abus de biens sociaux, des poursuites qui ont été suspendues après sa mort là en octobre. Et alors la question, c'est: aurait-il fait don de son corps pour sauver son groupe de l'opprobre public?
Pardon. Alors il y a la Commission européenne qui ouvre une enquête contre la France pour violation présumée de la directive sur l'eau dans la réalisation du projet du barrage de Sivens. Alors l'infraction concerne la directive cadre sur l'eau de 2000 qui stipule qu'on doit favoriser le bon état de l'eau, et donc un barrage va perturber l'écoulement naturel de l'eau, tarir des rivières, et cela va donc nuire à sa qualité. En gros, Bruxelles va adresser une mise en demeure à la France qui lui répondra par une lettre explicative du projet et qui va tenter de se justifier. Là, la commission verra si les arguments de la France sont satisfaits. Sinon, la Cour européenne de justice sera saisie avec des menaces de sanctions financières. Et comme l'Europe finance à hauteur de 30% le projet, il y a peut-être une petite chance pour que la Commission regarde un peu plus près ce projet.
Et pour finir ces brèves, la tension en Ukraine va faire intervenir les États-Unis. Et oui, on assiste à un petit relan de guerre froide. En 2014, écoutez plutôt. En fait, l'armée états-unienne prévoit de positionner des chars en Europe de l'Est. Donc les États-Unis ont annoncé aujourd'hui qu'ils allaient positionner 150 chars et des véhicules blindés dans plusieurs pays européens membres de l'OTAN. Un projet soi-disant pour rassurer les États baltes et la Pologne inquiets des manœuvres de la Russie en Ukraine. Ça nous ramène quand même il y a un petit paquet d'années. En tout cas, je me dis que l'industrie du cinéma a quant à elle de beaux jours encore devant elle.
Il va y avoir plein de films d'espionnage.
J'espère. Bon, et la France dans tout ça, Hollande a annoncé hier qu'elle ne livrerait pas le premier Mistral, le navire de guerre, à la Russie. Et les marins russes qui ont suivi une formation sur ce porte-avions vont être rapatriés dans la semaine. Et l'info importante de jour, c'est ce qui se passe à Ferguson. Petit rappel, donc le grand jury a décidé lundi dans la nuit de ne pas poursuivre l'agent Darren Wilson, auteur des coups de feu qui ont tué Michael Brown le 9 août. Donc suite à cette décision, des émeutes avaient éclaté dans le Missouri cet été, et là ont rééclaté ce lundi et mardi. Donc des manifestations étaient organisées lundi soir et mardi soir dans 37 États américains pour demander justice après la mort de Michael Brown. Des manifs plus larges qui sont globalement contre les violences policières. Ces manifs sont extrêmement tendus et vont continuer a priori ce soir. Et pour tous les gens qui s'y retrouvent, ce n'est pas seulement Ferguson, c'est un cri de colère contre les violences et les actes de racisme de toutes sortes des institutions américaines. Et dans les institutions, il y a les flics.
Par exemple, on peut citer quelques jours avant que ce jugement soit prononcé, enfin ce non-jugement en l'occurrence. À Cleveland, aux États-Unis, un jeune de 12 ans qui a été abattu par la police samedi soir parce qu'il traînait dans un parc et qu'il s'amusait comme un gosse de son âge peut le faire. En gros, il faisait peur aux passants avec un pistolet à billes. Les flics interviennent suite à l'appel d'un passant qui dit qu'un jeune menace les passants avec une arme probablement fausse. La patrouille arrivée sur place aurait demandé au gamin de lever les mains en l'air et le jeune, encore dans le jeu, aurait baissé ses mains vers son pistolet en plastique. C'est là que la police décide de lui tirer dans le torse. En août, la même situation s'était produite où un jeune noir dans l'Ohio a été abattu par la police qui intervenait suite à un appel dans un supermarché. La victime, John Crawford, transportait dans le magasin un pistolet en jouet qui était vendu sur place. À la suite de ça, une députée propose une loi qui imposerait aux fabricants d'armes factices de les rendre très colorées et de mettre des grosses bandes fluorescentes pour que la police cesse de les confondre avec des vraies armes, mais toujours rien concernant le désarmement de la police. Quelques exemples de noirs américains abattus par les flics blancs, jamais inquiétés par la justice. En 1974, un ado de 15 ans se retrouve sur les lieux d'un cambriolage, les flics lui demandent de s'arrêter, lui se barre en courant. Un flic lui tire une balle dans la tête. Lui, la victime n'était pas armée. Le policier sera acquitté malgré un avis de la Cour suprême contraire. En février 1999, Amadou Diallo, 23 ans et non armé, est abattu par la police de 41 balles. Son seul tort était de ressembler à une personne recherchée pour viol. Les flics ont prétexté croire qu'il était armé. Les quatre agents mis en cause ont été acquittés par le juré ayant retenu la légitime défense. En 2000, Anthony Dwayne Lee est tué de 7 balles pendant une soirée d'Halloween parce qu'il portait un pistolet en plastique. La police est acquittée. En 2009, Oscar Grant, 22 ans, est abattu sur le quai du métro d'Oakland en Californie. Il n'avait rien à se reprocher. C'était juste le jour de l'an. Les flics qui a tiré a expliqué dans son procès qu'il avait confondu son pistolet avec son taser. Alors lui, il a pris 2 ans ferme mais est sorti au bout de 11 mois. Ouais, c'est ça. Il y a eu une enquête qui porte sur 21 cas de flics blancs ayant abattu des personnes noires entre 1994 et 2009. Alors, il n'y a pas seulement eu 21 cas, mais en tout cas, cette enquête porte sur ces 21 cas-là. L'enquête constate que sur 21 meurtres, seulement 3 flics ont été condamnés et qu'il suffisait aux flics de dire qu'ils avaient eu peur pour qu'ils soient reconnus non coupables de leurs actes.
Moi, il me semble que j'ai entendu, je vais peut-être dire une bêtise dans les chiffres, mais sur les 10 dernières années, il n'y a eu que 47 condamnations légères de flics, alors qu'il y a eu un nombre beaucoup plus important de meurtres dans l'exercice de leurs fonctions, entre guillemets.
Et pour continuer sur Ferguson et la réponse de la police, en ce moment, la réponse des autorités américaines est militaire. Les États-Unis développent de nouvelles armes non létales qu'ils n'hésitent pas à déployer. Donc, la semaine dernière, on avait déjà parlé de Ferguson parce que la tension était déjà palpable une semaine avant le résultat, que les flics étaient déjà pas mal positionnés dans la ville. Et en tout cas, là, plus de 2000 soldats de la garde nationale ont été déployés depuis mardi autour de Ferguson, dans et autour de Ferguson, des militaires en tenue de camouflage et armés de fusils d'assaut, ainsi que des agents du FBI, ont été mobilisés en renfort aux policiers. Les soldats sont accompagnés de véhicules blindés qui étaient utilisés en Irak. Et c'est aussi le déploiement de la LRAD, c'est la Long Range Acoustic Devices, qui frappe le plus. Et donc ça, c'est les armes par le son, donc ce sont des canons à son aptes à envoyer de manière très précise des ondes audio à, écoutez bien, 8 km de distance au-dessus du seuil de la douleur. Donc ça va jusqu'à 149 décibels. Ces ondes provoquent une violente souffrance, des maux de crâne terribles et entraînent un risque de dommages irréversibles. Il y a déjà des personnes qui vivent maintenant avec plein de malaise quotidien.
De traumatisme,
de vertige, etc. Et des graves troubles auditifs à cause de ces armes non létales.
On en avait déjà parlé, ils avaient testé l'armée américaine, ils l'avaient testé sur les pirates en Éthiopie où ils lançaient ces canons-là de manière ciblée sur les bateaux. En plus, ce qui était un peu drôle, c'est qu'ils envoyaient Britney Spears.
Et c'est encore une autre méthode, Britney Spears, mais
Je crois que c'est la même, c'est des canons directifs et après tu mets le son que tu veux dans le canon. Non,
c'est d'autres choses. Pour Britney Spears, ils mettaient des énormes baffles, mais hallucinantes, pour tout un village, pour empêcher de dormir les gens pendant des jours et des jours.
Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, je me souviens pas de ça, mais en tout cas, je te crois quand même.
D'accord. Mmh. En tout cas, il y a eu les deux. Ils ont des stratégies très vicieuses, en tout cas. Et donc, pour rappel, donc ça a été utilisé pour la première fois lors d'une manif contre le G20 à Pittsburgh en 2009. Et là, ce canon a été déjà utilisé plusieurs fois à Ferguson depuis les premières manifestations en août dernier. Voilà pour Ferguson.
Et voilà, on continue ce Canu Info en compagnie de Martin. Martin qui est intervenant musical en milieu scolaire, mais qui ne va pas vraiment spécialement nous parler exactement dans le travail de son, de, dans le détail de son travail, puisque tu es venu complètement pour autre chose. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on va commencer ce petit topo par une lecture d'un texte d'un collectif, et ensuite on va commencer à discuter un petit peu.
Oui, je vais commencer par lire un texte. Effectivement, je fais partie des personnes dans les écoles qui voient arriver tous les jours, en ce moment, sur la ville de Lyon, et puis j'imagine ailleurs en France, des enfants qui ont dormi dans la rue. Donc, je suis juste révolté. Alors, comme c'est pas évident d'en parler comme ça, parce que ça met en jeu beaucoup de choses fortes, je dois dire. Enfin, puis en plus, j'ai passé beaucoup de temps là ces jours-ci, je suis un peu affecté par ça. Alors, je vais lire un texte qui nous vient de l'école Jean Giono, Lyon 8e. Depuis le jeudi 20 novembre, les parents d'élèves de l'école Jean Giono, Lyon 8e, occupent les nuits et le week-end le préau de l'école élémentaire pour soutenir, donner un toit aux 5 familles sans abri et mettre les pouvoirs publics face à leurs responsabilités. Les 11 enfants de 2 à 16 ans, leurs parents et des personnes soutenant l'action dorment à l'école jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Chaque soir, un repas convivial est préparé par des familles du quartier, puis chaque famille rejoint sa tente pour la nuit. La sécurité des locaux et le fonctionnement normal de l'école sont assurés. Chaque matin, dès 7 heures, les tentes et sacs de couchage sont rangés. Les enfants sans abri redeviennent des élèves. Les 5 familles sans toit luttent depuis des mois pour permettre à leurs enfants de suivre une scolarité assidue, forcés pour certains de dormir dans des squats ou des voitures. Edina et Arnella racontent. Nous, on veut être comme les autres. En ce moment, on n'a pas l'impression d'être comme les autres. Quand on est à l'école, on pense à ce qu'on va faire chaque soir, où on va dormir. On a dormi dans des foyers et des hôtels. Après, on s'est retrouvé dehors, on a squatté dans un squat, on avait peur. Arnella continue. Ma mère et ma sœur, elles avaient peur. Moi, je ne peux pas dire que j'étais calme, mais je ne voulais pas qu'elles voient. Quand j'ai vu les larmes de ma mère, j'ai pleuré aussi parce que ça fait mal. Les deux sœurs se souviennent, c'était dur. On a progressé en français, on a appris le français vite. Quand on leur demande ce qu'elles ressentent en dormant à l'école, elles répondent en chœur, ça fait chaud, ça fait mieux, beaucoup mieux que dehors. Le directeur de l'école élémentaire déclare comprendre que ce soit très difficile pour les enfants d'apprendre dans ces conditions. Le logement est un droit pour l'enfant. Le collectif demande un hébergement pour chaque famille puisque le droit à l'éducation ne peut être dissocié du droit à l'hébergement. Les parents d'élèves affirment être tranquillement déterminés à poursuivre l'action jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée pour chaque famille. Voilà, j'ai fini ce texte.
Donc toi, tu fais partie du collectif de cette école qui a écrit ce texte.
Alors, j'ai pas participé à la rédaction de ce texte, mais il a été écrit à l'école hier. Mais ce que j'aurais aimé rajouter quand même, c'est que ce dont on parle, là, ça se situe dans le cadre d'une action très collective. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le dire parce que c'est pas facile sur une agglomération comme Lyon de fédérer un certain nombre d'écoles pour qu'une action ait lieu de façon collective. Et ça, c'est ça qui a du poids. Il n'y a pas que l'école Giono. Là, on va parler de l'école Giono. On vient de parler de l'école Giono, mais il y en a beaucoup d'autres qui se mobilisent. Sur toute l'agglomération lyonnaise, on a compté récemment plus de 190 enfants dans les écoles de Lyon ou de l'agglomération qui dorment dans la rue. Je vais donner un exemple, à l'école Victor Hugo dans le premier, hein, on n'est pas loin là. Il y a 19 enfants qui dorment dans la rue, il faut se dire que c'est quand même presque l'effectif d'une classe entière, quoi. Enfin, ça fait réfléchir. Alors il y a un certain nombre d'écoles qui ont réussi à s'organiser de façon collective. Un collectif s'est monté qui porte le nom depuis quelque temps du collectif Jamais Sans Toi, qui a un petit peu fédéré tout ça. Alors moi je ne parle pas au nom de ce collectif, parce qu'en plus il y a plein de décisions là qui sont en train d'être prises sur la suite des opérations. Il y a même une réunion en ce moment à la maison d'éducation, donc je vais pas m'avancer et parler au nom du collectif, j'en ai pas le mandat, et puis en plus je sais pas tout ce qui s'est décidé là heure par heure. Je peux quand même dire que parmi les écoles qui sont mobilisées, en plus de l'école Giono dans le 8e dont on vient de parler, il y a donc l'école Victor Hugo dans le 1er, l'école Michel Servet dans le 1er, l'école Gilbert Dru dans le 7e, l'école Jean Villard à Vaux-en-Velin. Ces écoles que je viens de citer, elles ont prévu une occupation des locaux à plein temps, y compris le week-end, et sur une période relativement longue, en s'arrangeant pour organiser un roulement, pour que les gens dorment sur place. Et surtout, bon, la difficulté, c'est le week-end, parce qu'il faut être là, la journée, la nuit, c'est moins facile de trouver des gens disponibles. Alors, il y a autre chose qui est intéressant de dire, c'est que il faut quand même remarquer que toutes ces écoles ont décidé de se mobiliser à compter du 20 novembre, c'était jeudi dernier. Et le 20 novembre, c'est la date anniversaire de la signature par la France de la Convention des droits de l'enfant.
C'était en 90, je crois.
Ouais, par là, oui, je sais plus, mais ça doit être ça.
J'ai regardé tout à l'heure, j'ai pas dit une date au hasard.
Oui, c'est les 25 ans, donc 24 ans, d'accord. Alors, les écoles ont été sollicitées pas mal pour sensibiliser les enfants des classes aux droits de l'enfant. Alors, je crois que les écoles ne pouvaient pas faire autre chose que de communiquer là-dessus et de se mobiliser par rapport aux enfants qui dormaient dans la rue. Parce que comment parler des droits de l'enfant dans une classe quand dans cette classe, il y en a qui dorment sur un trottoir. La décision qui a été prise pour certaines écoles, c'est l'occupation. Parce qu'en fait, il n'y a pas tellement d'autres solutions pour sensibiliser. C'est-à-dire que l'idée, c'est que l'école est occupée de façon très, très pacifiste. Hein, ça se passe très bien. D'ailleurs, on l'a lu dans le texte. On organise deux repas. C'est même super sympa. Les tentes sont installées dans le hall de l'école, en tout cas à l'école Giono ou dans un gymnase comme à Victor Hugo. Les familles dorment là, elles sont bien contentes, elles en profitent.
Du coup, c'est les parents d'élèves qui mènent l'occupation.
C'est les parents d'élèves, les parents d'élèves qui mènent l'occupation. Et l'école et sa direction sont là pour s'assurer que tout se passe bien. Ils jouent leur rôle.
Et puis c'est quand même un bon moyen pour mettre la pression aux autorités pour que les personnes arrivent à trouver un hébergement.
Voilà, alors c'est vrai que c'est la question qu'on se pose, c'est qu'ensuite, une fois qu'on a occupé l'école, voilà, on a alerté, on a eu des articles dans le journaux, il y a des gens de les mairies d'arrondissement qui sont passés pour voir ce qui se passait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors là, moi je vais, encore une fois, hein, je vais pas pouvoir donner des informations précises par rapport à ce qui va se décider collectivement, parce que ça se décide en ce moment même, et puis ça change d'heure en heure. Mais ce que je peux dire quand même, c'est que là, les revendications, c'est tout simplement de demander un hébergement pour tous les enfants des écoles, puisque les enfants... on est sur le sol français, les enfants ici ont le droit, ont même le devoir d'aller à l'école, c'est une obligation et c'est un droit, mais quand on va à l'école, il me semble que pour étudier, ben, faut être en bonne santé, puis pour être en bonne santé, il faut avoir un droit, voilà. Donc à la limite, l'argumentaire, il s'arrête là finalement. Si on se pose d'autres questions, c'est finalement qu'on n'est pas vraiment la situation, qu'on n'a pas côtoyé ses enfants, mais si on côtoie ses enfants, on se pose pas tellement plus de questions, quoi. On voit un enfant qui...
Tu veux dire des questions de papier, de régularisation, de demande d'asile,
mais pourquoi
etc.
Pourquoi ils sont dans ces difficultés-là? On fait que constater, ils sont dans ces difficultés. Ces difficultés-là, on les loge, point. Et l'idée, c'est de sensibiliser en premier lieu les mairies d'arrondissement. Alors, est-ce que ces mairies d'arrondissement vont jouer le rôle de relais entre notre mobilisation et les autorités compétentes? Peut-être. Moi, je trouve qu'effectivement, comme l'ont dit la plupart, elles n'ont pas vraiment de pouvoir par rapport aux places d'hébergement. Mais si elles n'ont pas de pouvoir, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas un rôle à jouer. Comme nous, c'est la même chose en tant que citoyen, on n'a pas vraiment un pouvoir par rapport à ça, mais on a un rôle à jouer, et d'ailleurs, je pense qu'on l'a joué en occupant les écoles.
De toute façon, après, dans ce genre de situation, il va toujours y avoir cette espèce de jeu malsain entre les mairies d'arrondissement, la mairie centrale, les préfectures, pour se renvoyer la balle sur qui doit s'en occuper, qui doit loger, qui doit débloquer des fonds, etc.
Ouais. Là, c'est assez clair, hein, c'est la préfecture qui doit trouver les solutions. Mais ça ne veut pas dire que les mairies d'arrondissement ne peuvent pas jouer un rôle de relais. Je pense que ça serait bien, d'ailleurs, symboliquement. Après, ça, c'est ma position personnelle. Hein. Après, bien évidemment, du coup, qui dit préfecture, dit on se pose des questions sur la situation de ces personnes. Mais moi, je trouve que ça vient après, ces questionnements-là. Pourtant, je me le pose beaucoup, parce que je milite beaucoup dans le cadre du réseau Éducation sans frontières. Donc, par rapport aux personnes sans papier, aux personnes en situation régulière, etc., ça me pose beaucoup de questions. Mais en l'occurrence, dans cette mobilisation qui concerne principalement l'hébergement, je trouve que l'argumentaire, il doit être assez court. C'est-à-dire qu'on a des gamins dans les classes, et on ne veut plus qu'ils arrivent avec des cernes sous les yeux. Quoi.
Et juste pour élargir un peu, l'autre jour, j'ai discuté avec une travailleuse sociale qui m'a donné un peu les chiffres du 115 en ce moment. Donc là, ils débloquent comme chaque année 900 places d'hébergement d'urgence. Je crois qu'il y a 100 places de plus que l'année dernière. Sauf que là, actuellement, il y a plus de 2000 personnes par jour qui appellent. Et depuis le, depuis le début du plan froid, il y a eu 7000 personnes différentes qui ont appelé. Voilà. Pour montrer l'écart entre les 900 places proposées et les 7000 demandes, du coup, c'est assez vertigineux.
J'ai 2000, c'est, moi, je me sens que c'était un peu plus, mais enfin bon, peu importe, c'est 2 ou 3 000.
C'est 2000 et quelques, voilà. Et je ne me rappelle plus exactement.
Ça, c'est sur le Rhône, je crois. Voilà. C'est sur le Rhône, les appels au 115 auxquels aucune réponse ne peut être donnée, enfin à qui on dit rappelez demain. Quoi.
Sachant que là, du coup, dans ce que tu disais, on parle de logements d'urgence et de personnes qui sont sans foyer. Et c'est vrai que souvent, la question se confond avec des personnes qui sont pas nécessairement d'origine française, avec des situations un peu complexes, etc. Mais que j'imagine, dans le cas, il y a aussi des personnes qui sont pas du tout dans cette situation, ni demandeuses d'asile, ni sans papier, etc. Et qui n'ont pas pour autant de domicile.
Enfin, on peut rentrer dans ces considérations-là, si vous voulez. Alors après, du coup, là, il faut donner plus de détails.
Mais... c'était juste pour dire que c'est pas juste les parasites, comme disent les autres qui viennent.
Mais de toute façon, quand bien même on rentre dans ce genre d'argumentaire sur la situation régulière ou non des gens, ou sur le fait qu'ils aient ou non une obligation de quitter le territoire, qu'ils soient déboutés du droit d'asile, en demande du droit d'asile, etc., de toute façon, le droit à l'hébergement, il est là. Donc même quand on avance ces arguments-là, il est... Mais moi, ce que je trouve, c'est que ces arguments-là, ils n'ont même pas besoin d'être posés, d'être avancés. Par contre, on peut en parler. Hein. De toute façon, toutes les personnes qui sont en demande d'asile doivent être hébergées. Voilà. Donc ça, il y en a beaucoup. Alors après, elle se pose la question de ceux qui ont été déboutés du droit d'asile, ceux qui sont en cours de recours à l'OFPRA, ceux qui sont déboutés mais qui n'ont pas de QTF, ceux qui sont déboutés qui ont une QTF. Mais de toute façon, la question, c'est que ces gens-là, de toute façon, ils ont tous un droit à l'hébergement à partir du moment... Alors, si on parle des enfants, à partir du moment où les enfants... Il faut savoir que les enfants, ce n'est pas les enfants qui sont sans papier. Les enfants, ils ne sont pas sans papier. C'est les familles des enfants qui sont sans papier. Les enfants, ils sont à l'école. Ils sont des enfants. Donc, ce sont des personnes. Et ils ont un droit à l'hébergement, indépendamment de la situation administrative de leur famille, parce qu'on est en France. Voilà.
Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot par rapport à cette situation? Peut-être quelque chose à annoncer, des suites ou...
Alors, pour les suites, justement, je vais pas pouvoir en dire beaucoup plus, mais je pense que une délégation va être reçue, je crois, jeudi, par les autorités compétentes. Je dis ça comme ça parce que je vais pas dire de bêtises. Donc, on en saura plus jeudi. Et puis, si je dois rajouter quelque chose, je pense que vous l'avez compris, mais moi, je suis révolté par ça. Et à mon avis, les gens qui ne sont pas révoltés ou qui prennent des décisions qui amènent à ces situations, je pense que c'est des gens qui tout simplement ne connaissent pas, en fait, ne connaissent pas, n'ont jamais eu de contact quotidien ou de contact avec ses familles, avec ses enfants, parce que sinon je pense que c'est juste pas possible, en fait, de pas être révolté ou de pas faire quelque chose ou de prendre des décisions qui les laissent dans la rue. Donc, ou alors on n'est pas humain, quoi. Enfin, voilà.
Et donc, nous qui habitons à Lyon, j'imagine, est-ce qu'on peut passer les soirs et les week-ends dans les écoles?
J'ai cité un certain nombre d'écoles. Si vous voulez passer, moi, oui, carrément. Hein. Moi, j'ai dormi à l'école Giono samedi soir. Et dans la soirée, c'était cool. On a fait apéro-concert. Il y a un piano, en plus, l'école Giono, on fait du piano, on a fait de la musique. Et il y a des gens du quartier qui sont passés. Il y a une dame incroyable qui est passée, qui nous boit un coup avec nous, qui nous a soutenus, qui a raconté son histoire de militante. Oui, vous pouvez passer. Hein. Ouais, passer. C'est bien de se présenter. Voilà, de pas rentrer comme ça, pas rentrer comme dans un moulin, mais oui, c'est
ça peut aider à tenir, en tout cas.
Carrément. Après, voilà, pour tenir, et c'est Voilà, faut faire un emploi du temps avec qui dort à tel jour, qui reste la journée, qui fait les petits-déj, qui fait la soupe. Mais après, oui, vous pouvez venir faire à manger si vous voulez.
Mais voilà, du coup, si vous souhaitez apporter votre soutien, vous investir, du coup, les écoles Gilles Berdru, Victor Hugo, Jean Giono et j'en oublie une.
Il y a Jean Villard à vous en
plein. Et Jean Villard.
J'ai cité celles dont je sais qu'elles font une occupation à plein temps sur le long terme. Voilà. Et il y en a beaucoup d'autres. Qui font d'autres actions à leur façon.
Eh ben, on vous tiendra, en tout cas, chers auditeurs et auditrices, au courant des suites de tout ça. Merci beaucoup, Martin.
Merci à vous. Do it as you like. You're much ado about nothing. All you do is bite it. I'm too tired. I don't need 12 nights. All your little tempers get murked on the mic. Of course, I am the one with the force. Your history just like Henry the Fourth. I'm fire. Things look dire. Better run like Pericles, Prince of Tyre.
Alors j'ai oublié d'introduire ce Canu Info tout à l'heure, mais c'était pour dire que c'était un Canu Info très anti-flic. Alors évacuation des manifestants à Hong Kong. Donc des centaines de policiers ont évacué aujourd'hui l'un des trois sites occupés par les manifestants à Hong Kong depuis plus de 8 semaines et interpellé deux leaders étudiants du mouvement pro-démocratie. Donc les flics ont évacué une importante artère à 6 voies. Vous voyez, c'est pas un petit site d'occupation, je sais pas si c'est pas une mini place occupée, c'est une artère qui bloquait la ville où il y avait 6 voies. Je trouve que c'est quand même impressionnant de savoir ça.
À la dimension du pays, quoi, un peu.
Ouais, c'est impressionnant. Qui constituait du coup l'épine dorsale du campement de Mong Kok. C'est dans la partie continentale de l'ancienne colonie britannique, passée sous tutelle chinoise. Donc il s'agit de la plus importante opération d'évacuation menée par les autorités pour disperser les manifestants. Qui, du coup, je le redis, je ne l'ai pas resitué au début, mais qui réclame un véritable suffrage universel. Ils veulent arriver à pouvoir voter et demandent les bases de la démocratie autour d'un vote et d'avoir des représentants politiques qui peuvent être élus. Donc, les flics, bien évidemment, se sont interposés. Ça aurait été surprenant quand même, sinon. Mais bon. Avec des bâtons. Pour permettre à des ouvriers de démanteler les barricades. Et donc il y a eu pas mal de confrontations et après 2 heures d'affrontement, ils sont arrivés malheureusement à déblayer les barricades en bois et en métal, les tentes et tous les objets qui se trouvaient donc sur cette 6 voies. Ces opérations donc font suite à des ordonnances d'expulsion rendues par la justice. Saisi entre autres par des sociétés de transport. Donc parce qu'en gros, en fait, ces différents sites occupés bloquent pas mal la circulation sur l'ensemble dans plein de zones, et ce qui met à bout quand même en vrai aussi un certain nombre d'habitants, mais qui fait que c'est les sociétés de transport qui ont fini par porter plainte. Et donc depuis le début de l'occupation, Mong Kok a été le théâtre donc de heurts violents entre manifestants et flics. Il y a eu aussi pas mal d'habitants excédés qui sont passés et aussi des nervis soupçonnés d'être les hommes de main des triades, la mafia chinoise. Alors j'imagine qu'à ce moment-là, ça rigolait un peu moins. Un autre rappel, parce que je trouve on n'en parle pas tant que ça de ce qui se passe à Hong Kong, c'est que c'était le 28 septembre que la campagne pro-démocratie s'était accélérée et il y a eu quand même des dizaines de milliers de personnes qui étaient descendues dans la rue donc pour demander un suffrage universel. Donc quand même, on peut dire que Hong Kong connaît sa plus grave crise politique depuis sa rétrocession à Pékin en 97. Donc là, en ce moment, Pékin a approuvé le principe une voix, un vote, mais a réservé à un comité de grands électeurs majoritairement favorables au Parti communiste chinois le soin de présélectionner les candidats conditions, donc bien évidemment, jugées inacceptables par le mouvement pro-démocratie, parce que si les gens ne peuvent voter que pour des gens qui ne les représentent pas bien ou mal, en tout cas, c'est pas très intéressant, quoi. Et bien sûr, la Fédération des étudiants de Hong Kong est le fer de lance du mouvement et a déclaré, elle, qu'elle étudie à présent la marche à suivre donc pour quand même essayer de négocier avec Pékin. Donc, affaire à suivre.
Alors, allez, on va se faire des petites brèves un peu plus légères. Toujours sur la police, et ça se passe à Roubaix. C'est dans le cadre d'une opération anti-drogue où des flics vont perquisitionner une maison dans le quartier d'Omelette. Alors, à 19h, tous les flics amphibies sont en poste, prêts à débouler dans la maison. Première étape, logique, ils commencent à forcer la porte de la maison, mais là, un jeune de 17 ans leur ouvre gentiment la porte. Premier détail qui aurait dû les alerter, rarement les dealers ouvrent les portes gentiment à la police pour une perquisition, surtout quand ils sont en train de la forcer. Un flic braque son arme sur le front de l'ado, lui ordonne de se mettre à genoux et de se taire. Deuxième erreur. Bon, alors voilà, pendant ce temps-là, tous les autres procèdent à la perquisition, cherchent des tonnes et des tonnes de drogue. Et le jeune essaye tant bien que mal de dire au flic, si je pouvais y parler, peut-être je pourrais vous expliquer deux, trois trucs. Je pense que vous vous trompez.
Mais parce que c'est qui, lui?
Bah lui, c'est juste un type qui vit dans sa maison normale et qui est pas dealer et qui essaye de dire ça aux flics. Les flics, bien sûr, ne le croient pas. Mais à un moment, un flic dit « Bon, mais là, on est bien à telle adresse. » Et le jeune dit « Non, pas du tout. Vous êtes au numéro d'avant ou au numéro d'après. On ne sait pas trop.
» Trop bien. J'espère que les autres ont eu le temps de se barrer.
Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est juste... Ouais, voilà, les flics, là, se sont dit « Eh merde !» Et ils sont juste barrés en courant. Comme ça, je pense, effectivement, le temps d'aller à l'autre maison en courant, mais sans la moindre explication auprès du jeune, ni auprès des parents, tout ça, tout ça. Voilà, donc en tout cas, les parents de ce jeune Yann ont décidé de porter plainte contre les flics.
C'est bien.
Et deuxième petite brève sur la police. Et là, c'est, comme on l'a dit dans les titres, Vache et Taureau qui se mobilisent contre les violences policières. Alors ça se passe dans la commune de Saint-Christophe sur Dolaison. Là, les gendarmes interviennent sur la RD 906 car un groupe de manifestants peu habituels bloque la route. Vers 8h, ils arrivent sur les lieux et mettent un troupeau sur le bord de la route car ce troupeau bloquait la circulation sur la RD 906. Mais leur intervention se complique quand un taureau faisant partie de la mouvance anarcho-bovine décide de charger le véhicule de la gendarmerie avec ses occupants terrorisés. Voilà, charge du taureau en hommage à Rémi Fraisse. Alors assez vite, des renforts sont appelés et le PSIG, qui est le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, alors c'est quand même le peloton qui est censé escorter les convois de la Banque de France, les ministres, tout ça, bref, voilà, débarquent pour maîtriser la bête et le remettre dans son enclos. Bah, au final.
Mais ils sont habillés en rouge dans la voiture ou quoi?
Non, en bleu, hein, décidément.
Olé.
Et voilà, et en gros, bah, au final, plus de peur que de mal pour les militaires, car seul un véhicule de gendarmerie a été endommagé. Et ben là, on va passer à notre
un petit morceau de musique.
Un petit morceau de musique, le temps de mettre en place
un dispositif téléphonique incroyable.
Tu peux nous présenter c'est quoi qu'on va écouter?
Non, c'est non. Toi qui as choisi. Ah non, ouais, c'est vrai.
J'ai choisi.
Eh bien, on va écouter. pardon. On va écouter un morceau de Renaud Garcia Fons et Jean-Louis Matigny. Thank you.
Notre correspondant.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Allez, vas-y, parle-nous du Burkina Faso.
Ok, alors au Burkina, on a eu une semaine qui a été quand même un petit peu pleine d'événements, puisque suite à la révolution et au départ du président, donc ça c'était le 30 octobre. Là je fais un petit résumé des épisodes précédents. Donc, on va remonter encore un petit pied un peu plus loin. Il y a 27 ans, coup d'État, Blaise Compaoré arrive au pouvoir. Il garde le pouvoir pendant 27 ans. Donc un bon gros dictateur africain, réélu quand même régulièrement avec des élections régulières, hein, c'est-à-dire des élections qui n'étaient pas plus que ça truquées, mais où c'est lui qui disposait juste tout le temps de tous les moyens de communication et donc il se faisait quand même assez facilement réélire. Et ce qui n'empêche pas que les gens, petit à petit, en avaient de plus en plus marre. Et donc là, le 30 octobre, il finit par être dégagé par une foule en colère au moment où il essaie de réviser la Constitution pour pouvoir se présenter à nouveau à sa propre succession. Donc ça, c'est le 30 octobre dernier. Là-dessus, dans les heures qui suivent, l'armée décide qu'ils vont assurer la transition, en tout cas qu'ils vont maintenir l'ordre dans l'immédiat. Sauf que, globalement, la communauté internationale réagit de façon assez ferme au fait qu'il ne faudrait pas que ça soit l'armée qui confisque le pouvoir. Et donc demande que l'armée donne le pouvoir aux civils dans les 15 jours maximum. Et là, le lieutenant-colonel Zida, qui avait été nommé, du coup, je ne sais même pas comment s'appelait ce poste, mais en tout cas, c'était lui le grand chef du Burkina dans un premier temps, et ben lui transmet relativement facilement le pouvoir aux civils, donc c'est décidé. Ça s'est passé la semaine dernière. Un nouveau président a été élu, Augustin Kofada, et ça, voilà, on vous en parlait mercredi dernier. Le nouveau président élu décide de qui va être son premier ministre et qui il prend ? Il prend ce fameux lieutenant-colonel Zida. Donc en gros, il se nomme un peu l'un l'autre, enfin même si les gens qui ont nommé le président, c'était une commission, mais en tout cas, il prend Zida premier ministre. Et là, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, du coup, on se dit, bon, l'armée n'est plus au pouvoir, mais quand même, c'est le Premier ministre. Et après, le Premier ministre doit choisir son gouvernement. Et là, il choisit un gouvernement, donc 26 ministres, parmi lesquels il y a quand même 4 militaires. 4 militaires, dont lui, Zida, qui occupe 2 ministères. Alors, je ne me rappelle plus lesquels, mais en gros, c'est Défense et Intérieur, je crois. Il a donc trois collègues qui sont tous en plus des proches de lui, des potes à lui, quoi. Il y en a un, c'est son porte-parole. L'autre, je sais plus, mais en tout cas, c'est des gens avec qui il est bien en cheville. Un autre qui a des postes relativement importants. Un qui est ministre des Sports. Et puis le dernier qui est ministre des Mines. Et ça, le ministère des Mines, alors bien sûr, on ne sait pas ce que ça va donner avec le nouveau gouvernement, peut-être que ça sera plus comme avant, mais en tout cas, le ministère des Mines, à l'époque de Compaoré, c'était quand même toujours l'occasion de s'en mettre plein les poches. Parce que c'est le ministère qui attribue les concessions, et donc c'est le ministre avec qui il faut parler quand on veut faire une mine, quoi. Et du coup, parler, plus on parle en espèces sonnantes et trébuchantes, et plus on a des chances d'être entendu. Donc voilà, ça c'est les militaires dans le gouvernement. Mais bon, ce gouvernement, c'est quand même pas que ça. C'est aussi Joséphine Ouédraogo. Qui est ministre, alors elle, je me rappelle plus de quoi, mais quand même un ministère, un petit de la justice, il me semble. Et elle, qui est une ancienne ministre de Sankara, c'est-à-dire que c'est plutôt quelqu'un en qui, a priori, on a confiance. On a aussi Augustin Loada, qui fait partie des ministres, et qui, lui, est un opposant historique sérieux, c'est-à-dire pas plus que ça un homme politique, hein. Plutôt, il sort de ce qu'on appelle la société civile, là. Mais lui, à l'époque de Blaise Compaoré, a toujours été quand même très virulent, quoi. Bon, ce gouvernement satisfait globalement l'opposition politique, donc en particulier ce Bene Wende Sankara, qui se voit déjà lui en prochain président. Alors il faut savoir que tous les membres de ce gouvernement sont rentrés là-dedans en sachant qu'ils ne pourraient pas être candidats à la présidence aux élections qui devraient avoir lieu dans un an. Donc Bene Wende Sankara surtout n'y est pas rentré dans ce gouvernement. Et lui, il fait partie d'un parti qui s'appelle le Parti Sankariste. Alors, Parti Sankariste, qu'est-ce que c'est les initiales? C'est PS. Et c'est quand même surtout ça qu'il faut voir. Ce bonhomme, ça va être le PS, quoi. C'est une espèce d'opposition pour continuer la même chose avec un autre nom. Mais ceci dit, peut-être que l'alternance, bon, bien sûr, c'est l'alternance à la Burkinabé, hein, ça se fait tous les 27 ans. Mais ceci dit, c'est une grosse possibilité, c'est que c'est ça qui nous attend dans un an. Par contre, il y a un autre gars qui a été ministre, mais lui qui a été ministre pendant 48 heures, et lui, il vaut le coup qu'on en parle encore un petit peu avant de terminer sur le Burkina. Il s'appelait Adama Sagnan, il a été nommé ministre de la Culture, et puis c'est donc ce qu'on appelle les acteurs de la culture, mais que si on était en France, on appellerait les intermittents, bien sûr, sauf qu'au Burkina, il n'y a pas un statut spécial, hein, mais c'est les gens qui vivent du spectacle d'une manière ou d'une autre. Les acteurs de la culture ont fait Adama Sagnan, mais on connaît ce nom. C'est lui qui était procureur en 1998 au moment de l'affaire Norbert Zongo. Alors Norbert Zongo, on fait un petit peu d'histoire, ça va être très rapide. Un journaliste directeur du journal L'Indépendant qui était en train, en 1998, d'enquêter sur la mort du chauffeur, du frère du président. Le chauffeur qui avait peut-être quelques raisons d'avoir été buté par le frère du président.
Alors, tu pas l'as forcément fini quand personnellement, mais en tout cas.
Hein?
Pardon, il faut que tu finisses tes parenthèses à un moment.
Ouais, ok. Toujours est-il que ce Adama Sagnan, c'était lui à l'époque qui avait classé l'affaire, en gros, pour protéger la famille du président Compaoré, qui était le procureur qui avait classé l'affaire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il vient d'être nommé ministre, donc dimanche. Il y a eu 48 heures de manifestation pour qu'il dégage, et il a été dégagé. Le bon signe, c'est qu'il a été dégagé après les manifestations. Le peut-être extrêmement mauvais signe, c'est quand même qu'il y a des gens au gouvernement qui ont l'idée que c'était possible de le nommer ministre, et voir que c'était souhaitable. Voilà, on va continuer à suivre ce qui se passe pendant cette période de transition au Burkina. On va essayer de rester un petit peu attentif à ça dans les semaines qui viennent. Bonne suite de Canu Info, ciao.
Merci à toi.
Merci pour cette correspondance par téléphone.
En Turquie, Erdogan a balancé encore une fois une bonne connerie, une bonne grosse énorme connerie. Donc c'était lundi.
Il a du talent pour ça.
Oui, il a un certain charisme.
Poutine et Erdogan sont un peu les mines d'or comme ça, je trouve.
Du coup, lundi, à la veille de la journée internationale pour l'élimination des violences contre les femmes, eh bien, le président Erdogan a fait une déclaration donc antiféministe, à l'empereur porte-pièce, dont il est familier, bien sûr, que plein de médias sont précipités de relayer. Mais du coup, je le trouve absolument gonflé, parce qu'il était devant une assemblée du coup de féministes de l'association Femmes et Démocratie, le CADEM, et le ministère de la Politique Familiale et Sociale. Et Erdogan a déclaré que parler d'égalité entre hommes et femmes était impossible puisque les sexes diffèrent par structure physique et par nature. Du coup, je vous cite un de ces... Je vous le cite. Donc, notre religion a donné aux femmes leur place, c'est la maternité. Elle a donné à la mère une autre place. Elle a mis le paradis à leurs pieds. Pas sous les pieds du père, mais ceux de la mère. Mais cela, il y en a qui ne peuvent pas le comprendre. On ne peut pas expliquer cela aux féministes, elles n'acceptent pas la maternité. Voilà, c'est un petit peu simple. C'est un peu schématique. C'est Erdogan. Donc,
c'est très lui.
Donc voilà, rappelons quand même que Erdogan réprime les communautés kurdes en Turquie, réprime tous les opposants.
Les journalistes, de gauche, les étudiants. Voilà,
globalement.
Ses prisons sont pleines et débordent.
Donc no comment.
Chut, écoutez.
À tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place.
Témoignage, blabla, info contre la machine à expulser.
Bienvenue dans Faut que ça sache. On commence tout de suite cette rubrique à Genève, puisque dans la nuit du 20 au 21 novembre, il y a l'entrée du siège de ce qui s'appelle l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, qui a été saccagée. En gros, vitrine brisée et les locaux et toute la devanture aspergée de peinture. L'action est revendiquée comme un acte de solidarité avec les migrants. Se présentant donc comme une organisation humanitaire, l'OIM soutient en réalité le financement des États membres pour maintenir leurs frontières et les intérêts économiques. Et en plus des États, leurs entreprises donatrices, parmi elles Chevron, DOW et UBS, qui ont tous des rôles dans les catastrophes écologiques et économiques qui provoquent le déplacement des populations. Un texte de revendication des personnes qui ont donc... accompli cette action, indique que l'OIM a été ciblé pour son étroite collaboration avec Frontex, dont on parle très souvent dans cette rubrique, c'est l'Agence européenne de la sécurisation des frontières, ainsi que pour son implication dans les centres de rétention, fournissant aux États des données sur les voies de migration et sur les identités des migrants, et pour finir, pour ses programmes au retour volontaire qu'ils ont mis en place pour soudoyer toutes les personnes migrantes pour retourner à leur pays d'origine.
Ça sache.
Et on continue et on finit ce Faut que ça sache en Grèce, où une grève de la faim a lieu depuis quelques temps au centre de rétention, alors je m'excuse d'avance, d'Amygdaletsa. Alors en fait, il y a quelques temps déjà, passé à tabac par les flics, c'était en juin dernier, dans le centre de Corinthe, Mohamed Asfak n'avait reçu aucun soin malgré des problèmes respiratoires préexistants. Il est mort le 6 novembre dernier. Des centaines de personnes enfermées au centre de rétention d'Amygdaletsa ont commencé une grève de la faim suite à ce décès. Depuis le début de la grève de la faim, les flics semblent empêcher les contacts entre les retenus et l'extérieur. Cette grève a commencé le 17 novembre. Les retenus protestent contre la durée de rétention, qui peut aller au-delà des 18 mois maximum préconisés par l'Union européenne, contre l'enfermement des mineurs et contre les conditions dans le centre qui ont provoqué récemment la mort de Mohamed Asfak et d'une autre personne. Mohamed Asfas qui a supplié les flics de l'emmener à l'hôpital pendant plus de 15 jours avant de tomber dans le coma, ce à quoi des détenus du centre rapportent qu'il répondait simplement « crève, on s'en fout ». Quelques jours plus tard, ils ont laissé mourir un autre retenu par manque de soins médicaux à nouveau. Sur un site grec militant, on trouve quelques phrases un peu pêle-mêle comme ça, des détenus qui ont été interviewés par téléphone et que je vais vous citer. C'est des phrases un peu habituelles, on va dire, dans cette espèce d'horreur de la détention et de la rétention. Ils nous cloîtrent comme des moutons et ne s'intéressent plus à nous. Certaines personnes sont détenues pendant 26 mois. Quand on dit « j'ai mal à l'estomac », les flics répondent « moi j'ai mal aux couilles ». Et ça finit par « on se battra jusqu'à la liberté ». En tout cas, au troisième jour de la grève de la faim, il y a 15 retenus qui ont été transférés à l'hôpital après avoir perdu connaissance. J'imagine pas les 15, mais c'est pas très précis vu que c'est la traduction d'info grec. Si vous lisez le grec, en tout cas, vous pourrez trouver la suite de ces informations sur le site uria.noblogs.org. H-U-2-R-I-Y-A.noblogs.org. A diamond fella, all you little boys ever come in your errors. You bellow with your fellows, get clean like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. What are you gonna do? Little boys get clean like the shoe.
Eh bien, on finit rapidement par un agenda. Donc, ce vendredi 28 novembre, à partir de 20h, c'est la cantine pour cantiner en solidarité avec les prisonniers et prisonnières incarcérés dans les tôles de la région Rhône-Alpes. Donc, le principe est assez simple. On se retrouve autour d'une bouffe à prix libre. La thune collectée avec ce repas servira à envoyer des mandats aux détenus avec lesquels la cantine est en contact. Donc c'est à l'atelier des Canulars au 91 rue Montesquieu, Lyon 7e.
Manif offensive contre le Front National et le racisme d'État.
Le 29 novembre se tient le congrès du FNLU.
Il n'est pas possible que la venue du FN se déroule tranquillement. Nous faisons face au racisme d'État comme à sa préférence nationale chaque jour.
Les partis de gauche voudraient que tous ensemble, on s'allie contre l'extrême droite. Nous ne nous indignons pas de la montée de l'extrême droite. Nous voulons nous organiser en conséquence.
Dans le contexte actuel de révolte après la mort de Rémi Fraisse, nous appelons à une réaction dans la rue le 29 novembre.
Quitte à trouver la police sur notre route et refuser de faire marche arrière.
Le mouvement de la jeunesse. Alors, à toutes les manifestations nazies, soyez là, soyez présents et empêchez-les. Car nous sommes noirs, nous sommes blancs, nous sommes jaunes et ensemble, nous sommes de la dynamite. 1, 2, 1, 2, 3, 4. La jeunesse en mer, le Front National. La jeunesse en mer, le Front National.
Rendez-vous le 29 novembre à 14h, place Jean Massé.
Un suivi en direct se fera sur Radio Canu 102.2 à partir de 13h et toute l'après-midi.
N'hésitez pas à nous appeler pour nous transmettre vos infos pendant la manif au 04 78 29 26 00.
04 78 29 26 00.
Jeunesse française, jeunesse immigrée, solidarité.
Alors vous faites quoi ce samedi, vous?
Moi, j'ai un mot d'excuse.
Bon, alors, ben, il y a cette manif ce samedi et il y a aussi une rencontre, discussion autour du livre Les luttes des putes. Donc, c'est une rencontre avec Thierry Schaffhauser qui l'a écrit, auteur de cet ouvrage. Et ça a été édité à La Fabrique en octobre. Et donc, c'est à partir de 15h à la librairie Terre des Livres, donc au 86 rue de Marseille, Lyon 7e. Une entrée libre et la rencontre est organisée par la Fédération du STRAS, du coup, qui est le syndicat des travailleurs et travailleuses du sexe à Lyon.
En France.
Ben, le STRAS Lyon, et oui, le syndicat, il est national. Et l'association Cabiria, donc l'asso de santé communautaire à destination des travailleurs du sexe. Et c'est en partenariat avec cette librairie Terre des Livres et les éditions de La Fabrique. Donc si au cas où vous n'avez pas envie d'aller à Manif, vous pouvez faire ça. Et sinon, le soir, samedi soir, il y a un concert de soutien à la Caisse de Solidarité. Ben, parce qu'il faut alimenter la Caisse de Solidarité face à la répression policière. Et c'est pas comme si en ce moment, ça manquait d'arrestation, malheureusement. Donc ça sera à partir de 20h. Il y aura un bar de soutien, une entrée prix libre. Et il y aura les groupes Primitive Aggression, les riffs accrocheurs de Good Good Things et le hardcore à vif de Angle Mort. Et après, il y aura un mix électro. Et par contre, si vous voulez savoir l'adresse, eh ben, vous écrivez un petit mail à caisse de solidarité, tout attaché, at riseup.net. Et vous aurez l'adresse du lieu où ça se passera la soirée.
Voilà, voilà.
Et ben, on a fini ce Canu Info à 8h moins 1 minute, le temps de laisser la place à Idée Noire.
Et on se retrouve la semaine prochaine.
Merci de nous avoir écoutés.
Bonne fin de soirée à vous.
Ciao.
Du Canu 102.2.